J'avais dit que je reviendrais pas, mais... Bon, je commence à prendre goût, je pense. c'est pas vrai. Je vais même faire quelques petites annonces. La première chose, je voudrais vous mentionner que pour les toilettes, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement celles qui sont en haut ici. Il y en a en bas également. Puis on peut également prendre là, celles qui sont pour les hommes. Là. Tout est à nous autres aujourd'hui, on peut en profiter. Fait que gênons-nous pas. La deuxième chose, on me faisait remarquer qu'il faisait froid dans la salle. Je ne remarque pas parce que j'ai pas le même rôle, là. Mais justement, on a arrangé le chauffage tout à l'heure. On a monté le chauffage. Vous devriez voir la différence avant longtemps. D'accord? La troisième chose, on m'a mentionné aussi tout à l'heure à la pause que quand les versets apparaissent, la référence apparaît par après et souvent, vous n'avez pas le temps de prendre la référence en note. Alors, je l'ai mentionné ça aussi. Ça devrait être corrigé là, pour la suite de la journée. OK? Et puis, la dernière chose, c'est que... la journée d'aujourd'hui va être enregistrée, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée, et elle va être sur le site Internet de l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine. Alors, si vous voulez l'adresse Internet, c'est accm.ca, tout simplement. Et là, ça ne sera pas là demain, parce qu'on va essayer de faire un logo pour indiquer que c'est pour les femmes, et c'est là-dessus que vous allez le retrouver. Mais comme je vous dis, ça ne sera pas là, demain, là, puis peut-être pas dans les prochains jours. Là. Peut-être attendre la semaine prochaine. Oui, l'adresse Internet, c'est ACCM, Assemblée du Cap-de-la-Madeleine, accm.ca. Correct? Merci bien. Madame Hish?
Ça va? On est réveillés?
Oui.
Bon, j'espère. Alors, on vient à notre deuxième session avec le thème « Le source et le secret du contentement ». J'ai un très bon technicien en arrière. Bien sûr, j'ai fait mon devoir en préparant un PowerPoint pour lui aussi, un script, comme ça il peut me suivre. Donc, la source et le secret du contentement, Jésus-Christ, ça va? Ça va pas, hein? C'est mieux comme ça? Merci. Jésus-Christ, certains l'ont trouvé. Il était une fois un roi qui a demandé à son conseiller comment avoir le bonheur qui dure et un contentement parfait. Alors, son conseiller lui a dit d'envoyer un messager partout dans son royaume, pour son territoire, pour trouver l'homme le plus parfait, le plus content, et de lui demander sa chemise, emprunter sa chemise. Alors, le messager a parcouru tout le royaume, il est parti dans les villages, dans les villes, partout, dans toutes les directions, il cherchait l'homme le plus content du royaume. Et finalement, on lui a dit, voilà, tu vas aller là, à ce point-là, à cette maison-là, tu vas trouver l'homme le plus content de notre pays. Et quand le conseiller est arrivé, cet homme du roi, l'envoyé est arrivé, il a trouvé que cet homme n'avait même pas de chemise. Il voulait lui emprunter sa chemise pour la mettre, pour être content aussi. Mais cet homme n'avait même pas de chemise. Et il était connu dans le pays pour être l'homme le plus content. Qu'est-ce qui vous rend contente? Les choses matérielles? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pensez-y un peu. Chacun fait son propre examen. Nous avons parfois des goûts différents et chacune de nous aime des choses différentes. Hein? Si vous allez me demander qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, je vous dirais c'est toutes sortes de choses. Si je l'étends, d'aller au jardin, de planter des petites fleurs, ou de voir les fleurs, ou d'écouter la musique, ou de broder. Je n'ai plus le temps de broder, mais j'aimais beaucoup broder quand j'avais le temps plus jeune. Il y a des choses qui nous font à nous plaisir, qui ne font pas plaisir aux autres. Il y a des femmes qui sont très contentes en allant se promener au marché. Comme je vous dis, je suis curieuse quand je rencontre des femmes dans les conférences, et quand j'ai le temps, je leur demande différentes choses. D'autres aiment faire le bricolage. Je ne suis pas très bricoleuse. Ben, j'essaie. Hier après-midi chez moi, j'ai vu qu'il y avait une vis qui est partie d'une de mes chaises. Mais j'aurais recours à un homme, peut-être le mari de Yolande, quelqu'un d'autre, qui va me conseiller comment fixer cette vis qui part et que je vois elle est plus courte que l'endroit où elle doit se mettre et je vois que mon siège bouge. Mais je ne suis pas bricoleuse, je ne sais pas, j'ai mis un peu de Kleenex, vous savez. Non, c'est pas resté. Donc, cette vis part encore, je sais qu'il faut que je fasse attention. D'autres aiment faire la cuisine. Alors ça, oui, j'aime bien faire la cuisine et lire les livres de cuisine, des recettes. Quand je suis très fatiguée, je le faisais plus qu'avant. Mon mari et mes enfants le savaient, mais m'offraient des livres de recettes que j'aime beaucoup juste à lire. Ou à jouer à l'instrument. D'autres aiment à faire la lecture, d'autres vraiment être contentes, sont contentes quand elles ont terminé le travail. Je pense que toutes, on aime ça. Hein? Quand on a mis la maison en ordre, quand on a nettoyé, quand on a fini un travail, on est content. La plupart des gens dans le monde occidental que nous vivons sont contents par les choses qu'ils possèdent, par les choses matérielles. Par leur compte en banque, n'est-ce pas, par leur maison, les meubles, les beaux vêtements, qui ne sont pas des choses mauvaises en soi. On aime les belles choses. Chacune de nous, hein, elle aime bien s'habiller et avoir sa maison aussi en ordre et propre. Qu'est-ce qui nous fait d'autre plaisir? La famille, hein, les membres de notre famille, nos enfants. C'est une source de contentement, on peut dire, pour la majorité des personnes. Mais lorsque les relations familiales se gâtent, et à un certain moment, je vois que les relations, les meilleures, on peut dire, peuvent se gâter, malheureusement. Et les choses deviennent difficiles. Parce que les relations humaines sont difficiles. Parce qu'on est des gens difficiles, nous-mêmes. Combien de parents âgés n'ont pas compté sur un de leurs enfants pour prendre soin d'eux à la vieillesse? Et quand ils sont arrivés à un âge où vraiment ils avaient besoin d'eux, mais les enfants n'étaient pas là, ou ils étaient occupés ailleurs, ou pour X raisons, c'est pas toujours, on peut dire, leur faute, parce que la vie aujourd'hui est faite de cette façon. Les gens me demandent où sont tes enfants. Mes enfants sont... Mon voisin est à Toronto, que je verrai le week-end prochain. Je vais pour des réunions à la mission, à la CIM, et la fin de semaine, je vais être libre et je vais le voir. Mon voisin est à Toronto. Les deux autres, une au Niger, normalement en Afrique, et l'autre aux États-Unis. Donc, je ne les vois pas souvent. Et je ne peux pas compter sur eux, on peut dire, pour avoir le contentement ou pour être heureuse. Les questions d'héritage, parfois, dans les familles aussi, viennent gâter les relations. Hein? J'ai parlé avec une dame en Grèce il y a quelques semaines lors d'une conférence. Et cette dame-là, qui est de mon âge, m'a dit, « Oh, avec mon frère, on a un héritage, il m'a fait la tête, il pense que nous, on était plus gâtés que lui, alors que lui, il a pris plus, etc., etc. » Elle me contait toutes ces choses qui enlèvent même sa liberté en elle, spirituelle. Je dis, « Non, tu peux pas garder ça. Laisse tomber. Pardonne et va de l'avant. » Mais combien de gens souffrent hein, avec ces choses-là? Et ça crée tout de suite le mécontentement. On peut être aussi parfois déçu par nos amis, les gens sur qui nous avons compté, et tout à coup, ils ne sont plus là, pour X raisons aussi, et on ne peut plus compter sur eux, on voit. Et toutes ces personnes sont des hommes, ce sont des humains, n'est-ce pas? Mais combien de fois, vous et moi, on compte sur ces personnes, que ce soit la famille ou les amis? Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jérémie 17, 5 à 8? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il est heureux, mais il ne voit pas le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. De l'autre côté, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Les années de la sécheresse, qu'on soit jeune ou vieux, vont venir. Mais si on se confie en Dieu, on reste vert et on porte du fruit. Le centre d'intérêt et la source du contentement changent aussi avec l'âge et le temps. Les choses que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, vous ne les aimez plus. Ou vous avez d'autres intérêts aujourd'hui. Cela dépend aussi de l'endroit où on se trouve et des possibilités que nous avons devant nous. parlais à une femme africaine, je vous ai parlé d'elle déjà, du source de contentement, vous savez, elle va vous regarder avec des grands yeux ou elle va penser que vous lui demandez quelque chose, ça ne la concerne pas. Si elle a un repas qu'elle peut faire offrir à sa famille par jour, parfois, elle est bien contente. Si à Noël, elle peut s'acheter un pagne, comme on appelle les tissus africains, elle peut faire un bon ensemble pour elle-même, pour son mari, pour les enfants, parce que les familles s'habillent de la même façon, tous la même chose, ben elle va être toute contente. À Noël, elle va être toute contente d'aller à l'église pour les femmes chrétiennes et de vraiment montrer qu'elle a pu s'acheter un beau pagne, un nouveau pagne. Il semble que chaque génération aussi change et élève la barre du contentement. Et avec chaque avance technologique, nous avons besoin de plus en plus de choses pour être contents et être satisfaits. Pensez un instant à notre vie il y a 30 ans. Hein? Il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que moi je suis au Québec, on avait fait notre base au Québec. Beaucoup de choses ont changé au Québec depuis 30 ans. Et beaucoup de choses ont changé dans le monde. Comparez les possibilités et les moyens qui s'offraient à nos mères par rapport à nous aujourd'hui. Très, très différent. Notre monde nous pousse à consommer des expériences. On se doit de vivre plein de choses, des voyages, des relations. C'est vraiment quelque chose de très, très courant. On zappe et on passe à autre chose. Les gens, c'est ça qu'ils font. C'est de cette façon qu'ils vivent, n'est-ce pas? Tout est à notre portée, tout est accessible. Et c'est si facile de fuir. On pense les difficultés de la vie. Finalement, notre génération manifeste une réelle insatisfaction malgré des conditions de vie que nous avons, qui sont beaucoup plus agréables, plus faciles que les générations précédentes. Nous sommes des mécontents, des râleurs, des revendicateurs. Voilà notre monde. Les personnes les plus libres au monde ne sont pas celles qui ont plus, mais celles qui ont besoin de moins. Je le répète, les personnes les plus libres ne sont pas celles qui ont le plus, mais celles qui ont besoin de moins. Tout dépend comment on regarde la vie et quelles sont nos valeurs, quel est notre objectif et qu'est-ce que nous voulons accomplir dans notre vie. La vie passe très, très vite, vous savez, très, très vite. Pour vous, les plus jeunes, je suis contente d'avoir des jeunes aussi aujourd'hui parmi nous. Parce que vous avez toute votre vie devant vous. Mais la vie passe vite. Mettez maintenant des bons objectifs. Mettez vraiment vos valeurs à la bonne place, des valeurs bibliques. Un touriste a rendu visite à un croyant en Pologne qui était connu, paraît-il, dans le pays pour sa sagesse. Il a voulu aller le visiter pour voir qu'est-ce qu'il pouvait apprendre de cet homme qui était sage. Et le visiteur a remarqué dans la chambre de cet homme, il n'y avait presque rien. Il y avait une table, une chaise, quelques livres, sa Bible. Et cet homme, le voyageur, c'est un Américain, intrigué par cette austérité, a demandé, mais où sont vos meubles? Le monsieur a répondu, où sont vos meubles, mon ami? Le visiteur a protesté, il dit, de meubles? Moi, je suis en voyage, je suis de passage ici. Et lui, il a répondu, mais moi aussi. L'ancien philosophe Socrate de mon pays croyait que si on était vraiment sage, on ne pouvait pas être obsédé par des possessions, par les choses matérielles. En mettant son enseignement en pratique à l'extrême dans sa vie, il refusait même de porter des chaussures. Socrate aimait visiter le marché à Athènes et il admirait l'étalage qu'il y avait, tous les beaux produits qu'il y avait en abondance. Et lorsqu'un ami lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu vas au marché, tu n'achètes rien? Il a répondu, j'aime aller là pour découvrir que je suis parfaitement content sans toutes ces choses. Philosophe Socrate. Qu'est-ce que Socrate dirait s'il venait dans notre monde aujourd'hui, s'il venait dans nos étalages, dans nos supermarchés? Quand je reviens de l'Afrique et je vais au supermarché, j'ai près de chez moi, une fois que je suis revenue de l'Afrique après 2 mois, je vais là et j'ai pour faire mes achats et je regarde toutes sortes de salades comme si je l'avais oublié. Mais quand vous êtes en Afrique, vous savez, vous vivez là et vous oubliez. Et je commençais même à pleurer. Le propriétaire qui me connaît, il passait par là, il me dit, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, vous savez, j'ai tellement de choix, je ne sais pas quoi prendre. Je reviens de l'Afrique, je n'avais même pas de salade, j'avais 2-3 tomates, j'avais des petites choses. Et là, tous ces choix qui sont là, ça me surprend. Et après, si vous êtes absent 2-3 ans d'ici et vous revenez, alors là, vous êtes complètement perdu. On est habitué à ces choses-là. Le contentement n'est pas d'avoir ce que nous désirons, mais de réaliser tout ce que nous possédons déjà, je répète. Lors d'une réception d'une association universitaire, un invité était assis à côté d'un savant de renommée mondiale dont il admirait les livres et les écrits. Et il savait également que cet homme souffrait de cancer depuis quelque temps et il se faisait soigner. Il lui a donc demandé comment il allait. Et ce savant a répondu, « Jésus-Christ me donne une raison de vivre. » Vous avez lu des livres de Corrie ten Boom et son témoignage qui est connu vraiment. Elle nous a laissé un héritage extraordinaire d'une femme consacrée qui a vécu beaucoup de souffrances. Elle a remarqué, vous vous souvenez, l'attitude de sa sœur en plein camp de concentration de nazis. Bessie, sa sœur, avait comme motto de sa vie « Rendez grâce en toutes choses » en Thessaloniciens 5:18. Mais le camp de concentration où ils étaient était très très sale, rempli de poux. Et Corrie ne pouvait pas dire merci pour cette situation. Sa sœur la faisait remarquer que parce qu'il y avait des poux, les gardiens ne venaient pas tous les temps. Elle les laissait tranquilles. Comme ça, ils avaient le temps de lire la Bible ensemble sans qu'elle le voie. Voyez-vous comment, dans une situation d'extrême souffrance, de saleté, on peut dire, au milieu de poux, Betsy, la sœur de Corrie, elle pouvait être reconnaissante à Dieu. Il y a des personnes qui nous surprennent par leurs témoignages et qui nous donnent des leçons de vie sur le contentement. La Bible aussi nous donne des exemples d'hommes et de femmes qui ont trouvé le contentement en Dieu malgré les circonstances difficiles de leur vie. Mais l'exemple du contentement par excellence, pour moi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dont la vie était une vie de contentement de sa naissance à sa mort. Vous me direz, lui, il était Dieu. Cependant, il a vécu dans notre monde comme un homme sur la terre. Et la Bible nous dit dans Hébreux 2:18, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Il a été privé. On savait, on sait, n'est-ce pas? Et sur la croix, il a souffert comme personne d'autre n'a jamais souffert, en portant le poids de nos péchés. C'est ça qui nous touche. J'en suis sûre que c'est ça qui vous a amené au Seigneur, cet amour que le Seigneur a manifesté sur la croix. Regardons à la vie de Jésus-Christ. C'est une vie qui vraiment nous enseigne le contentement parfait. Il a été toujours serein, il a accepté les bousculades, les dérangements, les privations, la fatigue, le manque de confort, et rien, absolument rien, ne l'a jamais inquiété. Sa dépendance de Dieu l'assurait, le tranquillisait, car il connaissait bien son Père. Je répète ce que j'ai dit la première session. Connaissant bien notre Dieu, vraiment, nous avons plus confiance à lui. Il vivait chaque jour sachant que rien ne lui arriverait si Dieu ne le permettait pas. Le plus souvent, ce sont les inquiétudes qui enlèvent notre contentement. Ces inquiétudes nous rongent. La peur du lendemain, la peur d'une maladie, la peur des autres, la méfiance que nous avons même vis-à-vis les uns des autres. Je dis ça dans un groupe de femmes chrétiennes, mais oui. Parfois, on est méfiant. Parfois, j'entends des femmes qui me disent, « Ah, oh, ben celle-ci, elle vient, elle ne me dit pas bonjour, qu'est-ce qu'elle a contre moi ?» Mais elle n'a rien contre toi, mais qui sait, peut-être elle avait mal à la tête, peut-être elle était là, mais sa tête était ailleurs. Mais vous savez, on ne doit pas nous créer des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. Mais souvent, on les crée dans nos communautés. Et c'est triste. Jésus-Christ, notre Seigneur, ne s'est jamais laissé influencer ou perturber par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Son contentement était constant, il était parfait. Notre contentement est variable comme le temps. Hein? Aujourd'hui, il fait beau, mais demain, on nous annonce un peu le grisaille, la pluie. Et c'est comme ça, notre contentement. Hein? Une fois, on est content, une fois, on n'est pas content. Ou comme la bourse. Parlons pas de la bourse, n'est-ce pas? On nous parle de toutes ces choses financières qui nous menacent et qui créent beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. C'est ainsi aussi. Notre contentement dépend des circonstances. Hein? Mais notre contentement ne doit pas être conditionnel. Jésus-Christ a vécu un contentement qui était inconditionnel. C'est pour cela que Jésus-Christ est la source du vrai contentement. Et il a déclaré, « Moi, je suis venu afin que mes brebis » ceux qui reconnaissent le Seigneur comme leur berger, mes brebis, vraiment, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça que Christ propose pour nous. Cette vie que Dieu voulait au début, dans le jardin d'Éden, pour le premier couple, c'est ça que Christ est venu restaurer. Et c'est ça que Christ veut que nous ayons aujourd'hui, lorsque nous les suivons. L'abondance parle du contentement et de la satisfaction que seul Dieu nous offre par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Est-ce qu'une utopie irréaliste? Est-ce que c'est loin de notre portée? Dans ce même chapitre, Jean 10, le Seigneur nous certifie qu'il est notre bon berger, il nous appelle par notre nom. Vous et moi, on n'est pas enregistrés dans les registres de Dieu comme un numéro, comme pour le gouvernement de Québec, n'est-ce pas? On a des numéros, toutes. Mais pour Dieu, on n'a pas de numéros. On a nos noms et nos noms sont inscrits dans son livre et même dans sa main, il a inscrit notre nom à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Des passages qui nous montrent cela aussi sont dans les Jean 7, 37, où le Seigneur dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi », etc. Ces passages bibliques nous parlent de sources d'eau spirituelle que Dieu veut nous donner là où on peut puiser vraiment ses contentements. Dans le psaume 23, David décrit son état parfait de contentement. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'Éternel comme son berger. C'est lui qui le satisfait. C'est lui qui le fait conduire dans la vie et il peut se reposer auprès de lui. Lorsque nous avons un problème, nous pouvons le faire remplacer ou le réparer, mais si, par exemple ici, nous donne la garantie ce psaume, c'est ça que je voulais dire, il est avec nous. Mais parfois on achète des choses qui nous donnent une garantie, n'est-ce pas? Vous achetez un produit aujourd'hui, n'importe, il y a une garantie. Mais si cette compagnie ferme, si votre produit est endommagé et vous voulez le retourner, la compagnie a fait faillite, vous n'avez aucune ressource, hein, vous ne pouvez pas trouver votre droit. Mais avec le Seigneur, c'est une garantie à vie. Il nous dit qu'il est notre berger, qu'il nous conduit, qui nous rassure et qui nous bénit. La garantie des promesses de Dieu est aussi vraie et durable que lui. Le psalmiste dans le psaume 136, 1, il dit « Sa bonté dure à toujours ». Nous le savons ces choses. Vous savez, je vous dis des choses que vous connaissez déjà. Mais il faut les mettre ensemble avec l'aide de Dieu et aussi surtout les mettre en pratique. David a eu une expérience personnelle avec Dieu et nous certifie qu'à cause de cela et de ses relations avec Dieu, il est satisfait, il est content, il dit que rien ne lui manque. Parfois, je trouve David excentrique et irréaliste quand il dit toujours. Come on, David, c'est toujours comme ça? Mais non, ce n'est pas toujours. Mais quand il était bien, David, vous savez, il avait des hauts et des bas. Parfois, il criait à Dieu, il disait, non, tu m'as oublié, où est-ce que tu es? Mais il nous dit ses sentiments et c'est bon de le dire. Ce n'est pas se cacher derrière notre doigt et dire ben « Non, tout va bien ». Non, tout ne va pas toujours bien. Mais on peut les dire, on peut les exprimer à Dieu. Mais à ce moment-là, il était heureux, il était content. Et il nous dit que vraiment, la bonté de l'Éternel dure à toujours. Il nous donne aussi ce témoignage au sujet de la présence de Dieu. Lui qui était berger, il savait, n'est-ce pas, le travail du berger et le rôle du berger. Et il dit « L'Éternel est mon partage ». Et mon calice, c'est toi, il dit dans le psaume 16, qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est lui qui nous garantit sa présence à tous les moments de la vie. C'est celui qui nous rassure par sa parole et nous n'avons rien à craindre. Une femme qui était à la recherche du bonheur et du contentement, la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean 4, est venue vraiment goûter à cette eau que le Seigneur lui a offert et elle a trouvé le bonheur, elle a trouvé le contentement. Alors qu'elle avait vécu une vie bouleversée, une vie déréglée, on peut dire, aujourd'hui, mais Dieu la restaurait et elle pouvait vraiment repartir une nouvelle femme parce qu'elle a bu de l'eau vive que le Seigneur lui a donné. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer cette eau vive, qu'est-ce que ça signifiait, ça avait une signification pour les Juifs, pour les Hébreux. Donc, notre contentement vient de qui? De Jésus-Christ, d'abord, de la présence de Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours, sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je pars, mais je serai avec vous tous les jours. Et dans Hébreu, dans Exode, dans Deutéronome, nous lisons comme Dieu promet que il ne va jamais nous laisser, il ne va jamais nous abandonner. Parfois, on sent peut-être que Dieu nous a abandonnés, mais il a promis d'être toujours avec nous. Mon contentement vient de cette assurance que Dieu m'accompagne, que Dieu est avec moi, que Jésus-Christ est là avec moi. Première chose, la présence de Jésus-Christ. La deuxième chose, source de mon contentement, c'est la parole de Dieu. Dès le début de son alliance avec son peuple, Dieu lui a donné des instructions, non pour l'embêter. Souvent on dit, vous savez, la loi et les règles dans la parole de Dieu, mais ça enlève ma liberté. Ce n'était pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu était pour que les gens lisent sa parole, obéissent à sa parole, qu'ils soient heureux. Ça, il est dit, il leur est dit maintes et maintes fois, si vous lisez Deutéronome 4 à 6, vous allez trouver cela, que c'est vraiment c'est le but de la parole de Dieu. Pas pour nous embêter, c'est Satan qui déforme la parole de Dieu, c'est Satan qui vient, qui nous donne les doutes, c'est Satan qui vient nous murmurer, ah, Dieu a dit ça, pourquoi, tu sais, il y a un autre chemin, laisse tomber ça, suis ma voix. Et souvent, c'est ça qu'on fait, on tombe dans le piège de Satan, on écoute plus les mensonges au lieu d'écouter la parole de Dieu, les promesses de Dieu, souligner les paroles de Dieu. Vous savez, si vous allez ouvrir ma Bible, bien sûr, j'ai une Bible en français, en anglais, en grec, et je souligne les promesses, je souligne les dates que Dieu me donne une promesse, je souligne un verset qu'une amie m'envoyait. Juste avant de partir pour Ottawa la semaine dernière, je revenais d'un voyage en Grèce. Yolande m'avait vu, j'étais vraiment très, très fatiguée parce que j'avais beaucoup de travail là-bas. Et une amie de la France m'a envoyé, et m'a téléphoné plutôt mardi matin avant que je prenne le train l'après-midi pour aller à Ottawa. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai lu un verset ce matin que je vais te partager. Ah oui, je dis, vas-y Ruth, c'est une vieille amie. Et souvent elle me téléphone et ça me fait vraiment plaisir. Alors elle m'a dit, Dieu a dit, verset d'Isaïe, je suis avec toi, donc relax. Ouf, elle a lu, elle, sa Bible en allemand. Donc, c'était cette traduction qui donnait là, je suis avec toi, donc relax. Vous savez, j'ai pris un grand souffle, j'ai préparé mes valises, mes affaires, mes bouquins et tout. Oh Seigneur, je dis, oui, je relax. Je vais à Ottawa, je relax. Tu es avec moi. C'est magnifique. Vous savez, ce n'est pas notre illusion. On ne dit pas de n'importe quoi. On ne suit pas une hérésie. On ne suit pas une secte qui nous font un lavage de cerveau. Il s'agit de la parole de Dieu. Souvent, on est enclin d'écouter les bêtises des gens, n'est-ce pas? Merci. Oui, vous êtes d'accord avec moi. On écoute les bêtises du monde, on écoute les bêtises de Satan, de notre ennemi, au lieu d'écouter la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Tu es avec moi, je relaxe. Il y a 31 000, écoutez, ce n'est pas moi qui les a calculés, je les ai trouvés quelque part, hein, ces chiffres, 31 173 versets dans la Bible. Lequel vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il vous parle? Qu'est-ce que vous fuyez là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez dans la parole de Dieu? Le contentement est de s'asseoir tranquille auprès du Seigneur, comme Marie l'a fait pour écouter sa parole, alors que les gens autour de vous s'affraient, s'agitent, s'inquiètent pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Donc, les versets, la parole de Dieu nous rassure, nous donne le contentement. Les promesses de Dieu nous sont précieuses, qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est vraiment de vivre par les promesses de la parole de Dieu, que c'est essentiel pour nous, les chrétiens. Dieu nous a laissé dans sa parole 31 000 promesses, un autre chiffre. 31 000 promesses. Toute une panoplie, on peut dire, toute une armure, pour chaque jour de notre vie et durant toute notre vie. Mais il faut les approprier, il faut les réclamer par la foi, ne sont pas seulement une lettre qui doit rester là-dedans, mais il faut les réclamait. Et à ce moment-là, si je dis oui, faisons un lavage de cerveau avec les promesses de Dieu, avec la parole de Dieu, pas avec les bêtises de Satan et du monde. Écrivez, si aujourd'hui Dieu vous parle, si aujourd'hui Dieu vous donne une promesse, mettez trois rivières au cap, où est-ce qu'on est ici, trois rivières. Mettez la date, conférence des femmes de la Mauricie, mettez la date. Et regardez, allez à nouveau. D'ailleurs, j'ai oublié d'amener avec moi une petite corbeille de contentement que je veux vous proposer de faire chez vous quand vous rentrez chez vous. Une belle boîte, vous allez prendre une belle boîte chez vous, une belle corbeille. Et chaque fois que Dieu vous donne une promesse, vous allez l'écrire sur un bout de papier, un joli petit papier que nous les femmes on aime, ou une petite carte, vous allez le mettre dedans. Et quand vous êtes down, parce que vous allez être down, l'hiver s'en vient, beaucoup. La neige s'en vient. Moi, je pars en Afrique mi-janvier, alors Dieu voulant. Il faut dire Dieu voulant parce que la vie n'est pas dans nos mains. Mettez quelques promesses là-dedans et quand vous êtes down, ouvrez votre boîte de contentement, ouvrez votre corbeille de contentement et lisez-la. Et vous allez voir, vous allez retrouver la force. Donc, les promesses de la parole de Dieu, elles sont magnifiques. Dieu m'entoure par un arc-en-ciel de ses promesses. Mon mari disait une histoire sur une veuve missionnaire qui avait perdu son mari et qui retournait dans le champ missionnaire. Et quand il lisait cette histoire, je pleurais chaque fois. Ben, voilà, parce que, à ce moment-là, je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait se séparer si vite. Et voilà, cette missionnaire retournait dans le champ de mission avec le petit avion de sa mission. Moi aussi, je prends très souvent un petit avion pour aller dans les coins éloignés du Niger ou du Bénin ou du Burkina. Et alors qu'elle s'apprêtait, disons, à descendre, le pilote qui était à côté lui dit « Regarde devant toi », elle pleurait, elle était toute émue. Et devant eux, qu'ils allaient descendre dans ce village où elle allait travailler seule, il y avait un double arc-en-ciel. Et bien sûr, elle était rassurée que Dieu lui rappelait ses promesses. Et mon mari disait, Dieu nous entoure avec ses promesses, avec un arc-en-ciel de promesses. Il disait ça aux chrétiens, c'était un homme très fort. Celle d'entre vous qui avait pris le CD de nos messages, vous allez l'écouter, vous allez voir. Et il disait, Dieu nous entoure par ses promesses. Mais chaque fois, je pleurais, il me disait, pourquoi tu pleures, Soula? Tu connaissais mon histoire, je l'avais déjà dit. Et il ne savait pas qu'il disait aussi mon histoire, d'une manière prophétique, on peut dire. Et je me souviens de cette histoire, je me souviens de l'arc-en-ciel. Et chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je pleure, je suis émue. Dieu me rappelle de ses promesses. Les promesses de Dieu sont une source de contentement, mais aussi le pardon de Dieu est une source de contentement. Le péché avec lequel nous sommes tous, toutes nés, sans aucune exception, nous garde dans la déception, dans un sentiment d'un fond contentement. Rien et personne ne pourra nous donner le vrai sens que nous cherchons à la vie, le vrai contentement que nous aspirons toutes. Seulement, Jésus-Christ nous offre le pardon de nos péchés et nous acceptons ce don par la foi, ce cadeau par la foi. C'est un cadeau précieux. Vous rendez compte d'avoir fait tant de choses, d'être un criminel, on peut dire, aux yeux de Dieu, et Dieu nous donne la liberté, il nous pardonne, il dit tu es libre, tu n'es pas jugé parce que mon fils a payé pour toi sur la croix, son sang a coulé pour toi, donc tu le pardonnais. Et ici, j'ai toute une série de versets que je vous encourage à garder. Je pense que c'est même dans votre résumé que vous avez reçu, parce que ce sont des promesses que je trouvais qui sont magnifiques sur le pardon de Dieu, que je le partage chaque fois que je peux, parce que, vous savez, Satan va venir vous tenter au moment où vous ne vous attendez pas. Il va vous rappeler d'un péché, il me l'a fait hier soir avant de me coucher. Et je dis, arrête, va-t'en. Ça a été, je demandais pardon à Dieu, je l'ai confessé, c'est fini, Dieu l'a oublié. Pourquoi tu me le rappelles? Et c'est toujours au moment où j'en ai pas besoin. Mais lui, il sait, il est le malin. Il va venir nous inquiéter, il va venir nous rappeler des choses que Dieu a oubliées. D'ailleurs, je vais vous dire une histoire que j'ai lu sur quelqu'un qui est arrivé au ciel. Vous allez copier ces versets chez vous, vous allez le voir, comment Dieu utilise toutes sortes de formes, d'images pour nous dire, mais moi j'ai oublié vos péchés. Pour les sœurs en Afrique, je dis, si on écrit quelque chose sur le sable, mais il n'est plus là, hein, il est parti quand on marche dessus. C'est ça que Dieu fait. Donc cet homme est arrivé au ciel, il est tout triste. Et le Seigneur s'approche de lui, dit, mais pourquoi tu es si triste encore? Tu es au ciel quand même? Tu n'es pas heureux ici? Oui, mais Seigneur, je me rappelle des péchés graves que j'ai faits. Et vraiment, ça me fait mal. Je suis triste de ça. Et le Seigneur le regarde, de quoi tu parles? Le Seigneur l'avait oublié, parce qu'il a promis. Et je vous dis, croyez à la parole de Dieu. Pas superficiellement, mais de tout votre cœur. Si Dieu a dit, il a oublié votre péché, il a jeté au fond des océans, il l'a fait. Il le fait. Alors soulignez ces promesses de la parole de Dieu dans votre Bible. Et une autre source de contentement, c'est la prière. L'apôtre Paul qui a écrit aux Philippiens d'être toujours content. Belle photo, hein? Belle photo. Je trouvais ça intéressant quand je préparais ce PowerPoint. Vraiment intéressant. Priez sans cesse. La prière est une source de contentement pour notre vie. L'apôtre Paul, vraiment, qui connaissait vraiment les inquiétudes qu'on peut avoir, dit, ne vous inquiétez de rien. Il était en prison. Il dit aux chrétiens, ne vous inquiétez rien, de rien. Il leur dit qu'il est content dans tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il a. Un homme sage a dit, si les chrétiens passaient autant de temps dans la prière qu'ils passent à se plaindre, très vite, ils n'auront rien à se plaindre. Et quelqu'un d'autre a dit, la prière est un ok, un contentement, un amen de notre part pour que Dieu agisse selon son plan dans notre vie ou dans la vie de notre prochain et qu'il va intervenir. La prière, c'est Jésus qui fait sourire nos cœurs. C'est des citations que je trouvais merveilleuses. La joie est Jésus dont la présence est expérimentée dans la prière. Le prédicateur et auteur connu britannique John Stott, célibataire, octogénaire, il a 88 ans, j'ai refait la recherche cette semaine à Internet. Il avait l'occasion, quand il a eu 88 ans, à son anniversaire, il a partagé avec ses amis une prière qu'il fait chaque matin. « Père, j'ai prié afin que je puisse vivre cette journée dans ta présence et te plaire de plus en plus. Seigneur Jésus, je prie afin que cette journée, je puisse prendre ma croix et te suivre. » La croix, elle est là. On parle du contentement avec la croix. Saint-Esprit, je prie afin que tu puisses me remplir de toi-même et permettre que ton fruit mûrisse dans ma vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sainte, bénie et glorieuse Trinité, trois personnes à un Dieu, aie pitié de moi. Amen. Voilà cette prière qu'il dit, qu'il fait, qu'il a 88 ans aujourd'hui. Si nous prenons l'habitude de nous tourner vers Dieu dès le matin, sans avoir toujours une heure ou devant nous une demi-heure, mais juste tourner, discipliner notre cerveau, notre disque dur, dès que nous mettons les boutons on, de tourner à Dieu et pas à autre chose, et pas aux affaires qui nous dérangent, mais à lui, à Dieu, et d'être rempli de reconnaissance parce qu'on commence la journée avec lui. Je vois les jeunes filles qui rient là. Vous allez me dire après pourquoi vous riez, hein? J'espère que vous avez de belles choses à me dire après. Oui? Ok, maintenant tu vas le savoir. En mettant ton pied par terre le matin, on ici Dieu. Il est beau de louer l'Éternel, dit le psalmiste, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. C'est comme ça qu'il chantait le psalmiste dans le psaume 92. La prière, donc, donne une source de contentement pour nous, mais la persévérance, en dernier lieu. La persévérance veut dire recommencer sans cesse. Hein? Je fais une chose, demain, il faut que je la refasse. C'est plate, parfois, de faire les mêmes choses, mais c'est comme ça, la vie. Parce que la parole de Dieu aussi nous dit, dans Hébreux, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. » Parfois, on court, mais on regarde sur nous-mêmes, on regarde les autres, on regarde nos circonstances. Non, on fixe nos regards sur Jésus. Dans la deuxième école biblique où j'étais à Paris, C'était dans un château à La Morlaix et il y avait des escaliers. On montait au premier étage où il y avait les salles des classes et tout en haut, le directeur ou quelqu'un avait mis ce verset d'Hébreux, ayant le regard sur Jésus. Et vous savez, il faut qu'on fixe constamment nos regards sur Jésus. Dès qu'on les enlève de lui, après tout devient sombre, tout devient triste, tout devient mécontentement. C'est un appel constant dans la Bible. Parfois, nous sommes découragés, nous abandonnons même la course chrétienne. C'est une sorte de mécontentement. J'en suis sûre que vous connaissez dans vos assemblées, comme moi dans la mienne, à Sainte-Rose, à Laval, que beaucoup, beaucoup de gens qui étaient avec nous pour quelque temps, ils ne sont plus. Ils sont partis. Ils ont voulu prendre du recul un certain moment par rapport à Dieu, par rapport à la santé, à l'assemblée, mais ils sont dans le monde aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ est présent dans votre vie? Est-ce que vous lisez sa parole? Est-ce que vous vous accrochez à ses promesses? Avez-vous expérimenté le pardon de Dieu? Quelle est la prière dans votre vie, la place de la prière dans votre vie? Et est-ce que vous avez appris à persévérer dans la vie malgré les choses difficiles? Est-ce que vous êtes parmi les personnes qui ont trouvé le secret du contentement? Oui, certaines personnes l'ont trouvé. Et là, je vais parler du contentement individuel encore, comme il est merveilleux de pouvoir être content dans n'importe quelle situation. Ma mère était une femme qui m'enseignait beaucoup le contentement. C'était une personne très satisfaite, être contente. Elle a connu le Seigneur tard dans sa vie. Elle était orthodoxe de sa religion. Mais quand elle a découvert le Seigneur, elle a vraiment tout abandonné à lui. Et elle vivait une vie de contentement. C'était un exemple vivant pour moi. Je me souviens d'elle et de son attitude face aux épreuves. Mon papa était un homme... on peut dire souvent malade. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais peur que mon père meure. J'étais très attachée à mon père. Et souvent, même s'il avait mal de tête, moi, je rentrais dans ma chambre et je pleurais en disant, ça y est, papa va mourir, papa va mourir. Mais il est mort à 92 ans. Et ma mère à 94 ans. Mais jusqu'au bout, elle m'a donné cet exemple de contentement. Et quand elle avait un problème, un souci, elle commençait à chanter. Et quand elle commençait à chanter, je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui la troublait profondément. Alors je m'approchais d'elle et je disais, « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, ne t'inquiète pas, mon enfant, ne t'inquiète pas, ma fille, ça va. » Elle ne me disait pas vraiment. Ça m'arrive à faire la même chose. Il y a 2-3 ans, j'étais au Niger avec ma fille et tout à coup, je fais... Et ma fille me dit, « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Oh, j'ai commencé à chanter alors. Je dis, « Ça va, t'inquiète pas. » Quel exemple nous donnons à nos enfants, aux gens qui nous voient, qui sont autour de nous? Est-ce que nous donnons un exemple d'une personne, d'une femme, d'une maman, d'une épouse qui est contente ou une femme qui est mécontente, qui murmure, qui râle tout le temps? Bien sûr, la vie n'est pas facile. Il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Comment nous dealons avec ça, comme on dit ici au Québec? Comment nous faisons face à cela? Dans la chambre de mes parents, ils avaient un petit verset encadré, même pour dormir, le psaume 4, 7 à 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Du matin au soir, on peut garder cet esprit de contentement. Je ne dis pas qu'on va danser ou chanter tous les temps. J'ai dit le contentement, ce n'est pas un rire euphorique, ce n'est pas une folie que nous avons, mais c'est quelque chose de réel qui se vit au fond de nous-mêmes. Et j'ai vu comment des gens peuvent mettre cela en pratique et s'endormir en paix parce que le Seigneur prend soin d'eux. Et j'ai lu l'histoire d'une femme en Angleterre qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que tout le monde paniquait parce qu'on bombardait Londres, comme vous savez, avec le jour de la mémoire, ces jours-ci, le 11 novembre, on a réécouté beaucoup d'histoires des deux guerres mondiales. Et cette femme, donc, elle était toute sereine, toute calme. Et les gens disaient, mais écoute, on est bombardés. Toi, comment tu peux rester tranquille comme ça? Comment tu peux dormir même tranquille? Elle dit, vous savez, il y a un qui veille sur nous, sur moi. Pourquoi moi rester éveillée aussi? Ce n'est pas la peine que moi je reste éveillée parce que Dieu reste éveillé et il veille sur moi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle avait foi en Dieu confiance en Dieu, qu'elle pouvait aller dormir tranquille pendant qu'on bombardait Londres, parce qu'elle avait confiance en Dieu. Dieu dit, en vain, vous vous levez, vous, le matin, et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Combien nous avons besoin d'apprendre à nous reposer sur Dieu et vraiment de faire confiance à ses promesses. Il nous garde, il travaille pour nous. On s'inquiète aussi pour notre avenir, pour notre lendemain. Bien sûr, la situation économique aujourd'hui ne peut pas nous encourager, n'est-ce pas? Mais au temps du Seigneur Jésus, les gens s'inquiétaient aussi. Ils vivaient des temps qui étaient difficiles, ils étaient bousculés, ils étaient sous l'oppression des Romains. Mais le Seigneur, pendant ce temps, alors qu'ils étaient sous les Romains, il leur disait, regardez les lys des champs, les oiseaux du ciel, suivez leur exemple, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous comme je m'occupe de ces oiseaux. C'est merveilleux de pouvoir vivre ce que nous lisons, ce qu'on nous enseigne et ce que même parfois nous-mêmes nous enseignons. Il y a des personnes donc qui ont trouvé le contentement dans leur vie. Vous avez connu de telles personnes comme moi-même. Et je me rappelle ici d'un exemple que j'ai vécu en Éthiopie et au Soudan il y a 4-5 ans. Et j'étais partie de l'Éthiopie où j'avais rencontré une dame veuve que je suis depuis des années avec deux enfants parce que son mari est mort après de... Elle a été maltraitée dans une prison parce qu'il avait refusé de ne plus enseigner la foi en Dieu pendant le communisme en Éthiopie. Et aussi au Soudan, j'avais rencontré une autre Éthiopienne qui travaillait dans la maison de mon fils pendant qu'ils étaient là. Et cette femme aussi était très, très contente. Et je partais de l'Éthiopie et du Soudan en ayant ces exemples de deux femmes qui avaient beaucoup, beaucoup de problèmes dans leur vie. Cette autre Éthiopienne était immigrée au Soudan. Et au Soudan, ce n'est pas le meilleur pays pour immigrer, hein, si vous suivez les nouvelles. Et pourtant, ces femmes étaient contentes. Et je lisais un journal et qui avait le titre « Ceux qui volent notre joie ». Et les points principaux étaient ceci, l'anxiété et la peur de se comparer avec les autres, le péché, être trop occupé, vouloir contrôler notre vie et nos circonstances et l'incrédulité. Ces choses nous volent notre joie. Et je pensais à ces femmes, je dis « Ah !» Ces femmes-là, elles ont trouvé le secret. Elles n'ont pas les choses peut-être que moi j'ai, mais elles sont contentes, elles sont satisfaites. Oui, le temps avance. Attendez, ouais, qu'est-ce que j'ai sous là. Moi, j'ai toujours un problème avec le temps. trois versets qui nous exhortent à être satisfaits et contents sont mentionnés dans le deuxième point de Hébreux 13, Psaume 4, 7, 1 Timothée 6, 6 à 10. Lorsque nous pensons à ce qui nous manque par rapport à d'autres personnes, on peut dire, et nous disons silencieusement à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné ce que les autres ont, ce que j'ai dit aussi en première session. Nous questionnons Dieu au lieu d'être reconnaissant pour ce que nous avons. La reconnaissance est comme de l'eau qui coule et le contentement comme le bouchon qui la retient, l'eau. Peu importe la quantité que nous avons, le contentement nous garde remplis. Si nous nous réjouissons dans les bonnes choses que Dieu nous accorde, un esprit de reconnaissance rempli dans notre cœur va déborder. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, a écrit « Pour les Américains, la tragédie, c'est de vouloir quelque chose à tout prix et de ne pas l'obtenir. Mais bien des gens ont dû apprendre que la pire tragédie consiste peut-être à vouloir quelque chose à tout prix, à l'obtenir et à le trouver vain. » L'apôtre Paul dit « J'ai appris, je ne le savais pas. J'ai appris dans n'importe quelle expérience externe, c'est une traduction libre que j'ai fait là, que je vis d'être content. Je sais comment vivre dans des situations tendues. Je suis pleinement initié à tous les secrets de l'abondance et de la faim, de la richesse et de la pauvreté, J'ai la force pour n'importe quoi que c'est par celui qui me donne la capacité. L'apôtre Paul a pu apprendre cela. C'était son mode de vie. Je vais passer sur plusieurs choses ici. Et je dis, le contentement aussi vient lorsque nous sommes prêts et on veut faire la volonté plus qu'autre chose. Et c'était l'exemple aussi que le roi David nous donne, parce que très très souvent, il a dit à Dieu, je veux faire ta volonté à Dieu. Dieu permet des choses dans notre vie, pas pour nous faire du mal, mais parce qu'il a un but que nous, on ne connaît pas toujours, on ne le comprend pas toujours, mais lui, il le permet pour une raison. Les personnes les plus joyeuses que j'ai rencontrées, a dit quelqu'un, à peu d'exceptions près, sont celles qui ont eu le moins le soleil et le plus d'obscurité, le plus de douleur et plus de souffrance, de moins de facilité dans leur vie. Les gens les plus reconnaissants ne sont pas ceux qui ont marché sur un sentier de roses toute leur vie, mais ceux qui étaient obligés de rester à la maison ou à garder les lits et ont appris à dépendre de Dieu et de sa grâce. Les épreuves, vous savez, sont comme un entraînement pour nous qu'on puisse apprendre à se confier à Dieu. Et quand les épreuves arrivent, c'est trop tard d'apprendre quoi que ce soit. Il faut que toute notre vie, on s'exerce au jour éventuel où nous allons rencontrer des épreuves, les jours où viendra, où nous allons être secoués comme Lise m'a demandé, vous avez vécu vraiment un tremblement de terre, ou une amie m'a demandé ici ce matin, oui, j'ai vécu un tremblement de terre comme je ne m'attendais pas avec le départ de mon mari. Mais quelques semaines après cela, j'ai écouté, c'était la guerre au Kosovo, et j'écoutais une interview qu'il faisait avec un colonel français, un jeune colonel, 27 ans, et les journalistes lui disaient, mais vous allez aller à Kosovo, comment vous vous préparez, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, maintenant c'est trop tard pour apprendre quoi que ce soit. Ce qu'on a appris en tant que militaire, maintenant on va le mettre en pratique. Et ça m'a vraiment impressionnée et je me suis dit, oui Seigneur, dans cette guerre spirituelle, parce que j'ai vécu une guerre spirituelle en même temps que la peine physique du départ de mon mari, parce qu'on était très très unis, on travaillait ensemble, c'était mon mari, mon team leader comme on dit, mon compagnon d'œuvre, mon chanteur, mon ténor, tout ce que vous voulez. Et je vivais une guerre de tout point de vue, mais c'était trop tard pour apprendre quoi que ce soit. Le fait que je connaissais Dieu, le fait que j'avais appris à me confier à lui, le fait que je savais que Dieu m'aimait malgré tout, m'a donné confiance et j'ai pu faire face à cette guerre. Comment est-ce que nous préparons? Dans 2 Samuel, nous lisons ce verset qui m'aide souvent, il exerce mes mains au combat. Maintenant, quand tout va bien, apprenez à combattre, apprenez à faire face à des adversités. Dieu vraiment intervient dans nos vies et il permet des choses, mais il veut nous enseigner la dépendance. Et non seulement on voit des gens individuellement qui ont vécu le contentement, on peut avancer, il y a des choses que je vais passer vite. Pour arriver au contentement collectif, parce que je ne veux pas vous prendre l'heure de votre lunch, le contentement collectif, on a parlé du mécontentement collectif avec le peuple d'Israël, que l'un influençait l'autre, et ils murmuraient contre Dieu, ils étaient contre Dieu. Mais là aussi, dans ces passages, on voit comment le peuple de Dieu, face à la délivrance qu'ils ont eue comme à Exode 15, ils ont commencé à chanter ensemble. Myriam, la sœur de Moïse, était là. Elle conduisait toute cette chorale de 2 millions de gens, s'il vous plaît. Pas un ou deux. 2 millions de gens qui sont sortis d'Égypte et ils chantaient ensemble, ils louaient Dieu ensemble. Dans Néhémie, on voit comment Dieu a défié le peuple. Et dans la joie, ils ont construit ensemble, malgré le fait qu'ils faisaient face à l'adversité. Oui, on peut influencer les autres par notre vie, par notre contentement et apprendre à vivre aussi dans nos communautés, dans nos groupes de femmes, dans nos groupes d'église, dans nos assemblées, les contentements ensemble. Laissez Dieu vous enseigner et vous apprendre le contentement et avoir cette assurance que Dieu est là dans notre vie et il fait toutes choses belles en son temps.
j'étais en train de me dire, j'aimerais ça moi aussi chanter. Mais vous allez le regretter. C'était très beau. Je voulais rien que mentionner une petite chose. Quand je pensais à cette conférence-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais très, très hâte. Puis, en me préparant pour l'animation, je m'étais dit, je vais relire un des livres que j'avais acheté il y a très, très longtemps sur le contentement. Et j'ai été très, très attristée quand j'ai lu le livre, parce que pas une seule fois, le mot « Dieu » a été mentionné dans le livre. Et puis, je l'avais acheté dans une librairie chrétienne, je m'en souviens très, très bien. Puis, j'ai cherché le nom de Jésus-Christ, je ne l'ai pas trouvé non plus. J'ai pris le livre, là, il est sur le bord de la poubelle. J'ai été très attristée. C'est pour ça qu'une conférence comme celle qu'on a aujourd'hui, vraiment, ça me réjouit le cœur, parce que, comme notre sœur nous a dit, notre contentement, il vient de Jésus-Christ. Puis, elle a parfaitement raison. Maintenant, bon, je pense que vous commencez à avoir des odeurs qui vous viennent dans le nez, vous aussi. En tout cas, en arrière, on en a, je peux vous le dire. Comment ça va se passer? Premièrement, le menu, c'est que ça va être un mijoté d'automne avec une croustade aux pommes, OK, qui a été faite par nos sœurs. Ça sent vraiment bon. Comment ça va se passer en bas? C'est qu'on me dit que c'était préférable que chaque femme aille se servir. Ça veut dire quand vous allez descendre en bas, vous prenez les ustensiles, les assiettes, et puis là, il y a des femmes qui vont vous servir au comptoir. Et puis, ça va se passer de la même façon aussi pour la croustade. Ça vous va? D'accord. Une autre chose aussi qu'on m'a mentionné, c'est que le PowerPoint que vous voyez à l'arrière, il va être aussi sur le site Internet. OK, c'est enregistré, mais le PowerPoint va également être sur le site Internet. D'accord? Puis juste avant de passer au repas, je pense qu'on va tout de suite rendre grâce pour le repas. Joanne, si tu veux nous conduire dans la prière.
Merci, Mme Hich, pour votre beau chant. Vous avez une belle voix aussi. Gloire à Dieu. On va courber nos têtes, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ton immense amour pour chacune de nous. Merci, notre Dieu, pour notre sœur qui nous apprend sur le contentement. Nous te prions de nous aider à mettre toutes ces choses en pratique dans nos vies. On sait que c'est pas facile, mais avec toi, on peut faire des exploits. Merci pour toute cette nourriture spirituelle que tu nous apportes aujourd'hui. Maintenant, nous te demandons de bénir le repas que nous allons prendre. Merci pour nos sœurs qui ont préparé ce repas. Peux-tu nous donner un excellent temps de communion fraternelle? Remplis-nous de joie et de simplicité. Nous sommes tes filles, nous t'aimons. Nous voulons te plaire et t'obéir. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen.